30 ans, le 10 mai 1981, François Mitterrand a été élu président de la République. La victoire de Mitterrand, premier président de gauche de la Ve République, crée la surprise. La droite gouvernait sans partage depuis 1958. Et Mitterrand lui-même, politicien vieillissant, avait connu une série de défaites comme candidat unique de la gauche depuis 1965. Au point que ses adversaires, par dérision, le comparaient à Poulidor, l'éternel second du Tour de France cycliste. Mais qu'alors, alors qu'à la présidentielle de 1981, la gauche était divisée, Mitterrand battait son adversaire de droite, Giscard d'Estaing, qui ne doutait pas pourtant d'être réélu. Le résultat souleva un espoir chez les électeurs de gauche, et surtout chez les militants socialistes, qui se voyaient enfin aux portes du pouvoir après des années de vaches maigres. Dans ces années-là, la crise commençait à frapper lourdement. La montée du chômage semblait ne plus pouvoir s'arrêter. Les hausses de prix dépassaient les 10%. Des secteurs entiers de l'industrie, la sidérurgie par exemple, étaient menacés de liquidation. La droite au pouvoir était vue à juste raison comme l'instrument du grand patronat par ses mesures économiques et sa politique répressive. Mitterrand, lui, annonçait la rupture. Son programme de 1981 promettait la résorption du chômage par une vaste politique de relance et des mesures substantielles censées améliorer la vie des travailleurs. Le Parti socialiste de Mitterrand prétendait, je cite, « changer la vie ici et maintenant ». En 1972, ce Parti socialiste avait signé un programme commun de gouvernement avec le Parti communiste, écarté du pouvoir depuis 1947. Cet accord apportait l'appui des militants du Parti communiste qui ont assuré le succès de Mitterrand. En 1981, la droite pointait d'un doigt accusateur l'ombre menaçante des communistes derrière la force tranquille de Mitterrand. C'était son slogan de campagne très politique. Et prévenait le pays du danger d'une coalition socialo-marxiste. Le Parti communiste était alors bien plus puissant qu'il ne l'est aujourd'hui. Ses 500 000 adhérents, ses milliers de militants dévoués, lui assuraient une influence déterminante sur la classe ouvrière à travers la CGT, le syndicat le plus important. Et le parti était encore lié à l'Union soviétique, décrite comme une menace pour le monde par la droite et même par la gauche non communiste. Eh bien, malgré ces attaques, Mitterrand créait de nouveau la surprise en intégrant 4 ministres communistes à son gouvernement, alors que l'écrasante victoire des socialistes aux élections législatives de juin 1981 lui permettait de gouverner sans le Parti communiste. Des communistes et des socialistes ensemble au gouvernement, on n'avait pas vu ça depuis 1947. L'espoir renaissait à gauche. Mais un début de panique s'empara de certains possédants et des milieux réactionnaires. Certes, seuls les imbéciles prirent au pied de la lettre les propos de Michel Poniatowski, prédisant l'arrivée des chars soviétiques sur les Champs-Élysées. Mais le dirigeant communiste Georges Marchais n'avait-il pas menacé, parlant de l'impôt, je cite, « au-dessus de 4 millions, je prends tout ». Dès l'élection de Mitterrand, la bourse s'affolait, le franc dégringolait. Et on vit ces pauvres riches, ceux qu'on appelait alors les « yacht people », affolés par la crainte de tout perdre, contraints de passer la frontière suisse avec des valises pleines de billets. Le gouvernement de gauche du socialiste Pierre Mauroy appliqua les premières mesures de son programme. La retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés, la suppression de la peine de mort. Il réalisa un vaste plan de nationalisation de grands groupes industriels et du crédit, occasionnant quelques passes d'armes parlementaires avec la droite. Le socialiste Paul Quilès, au congrès de Valence de septembre 1981, menaça ainsi des banquiers accusés de saboter les nationalisations. Je le cite. Il ne faut pas se contenter de dire de façon évasive, comme Robespierre à la Convention le 17 Thermidor 1794, des têtes vont tomber. Il faut dire lesquelles et le dire vite. sur quoi l'homme de droite, François Daubert, menaça d'émigrer au Liechtenstein. La victoire de la gauche était limitée au terrain électoral. Mais les premières mesures de la gauche confortaient les électeurs du Parti communiste et du Parti socialiste. Les militants de ces partis y ont vu des raisons de défendre ce gouvernement et de lui faire confiance. Et on vit très rapidement ce que la gauche du gouvernement fit de cette confiance. Ce gouvernement ne visait pas à autre chose qu'à gérer loyalement les intérêts des possédants, à appliquer les mesures que la droite des autres pays appliquait à la même époque. En France, c'est la gauche qui portait les coups à la classe ouvrière. Elle démoralisa et affaiblit durablement le mouvement ouvrier. On le paye encore aujourd'hui. Alors, comment François Mitterrand, homme politique bourgeois au passé vichiste, compromis dans toutes sortes de combinaisons de la 4e République, a-t-il pu utiliser à son profit plusieurs générations de militants socialistes et communistes, émerger comme le dirigeant incontestable de la gauche, le gouvernement, puis accéder au pouvoir en mai 1981. Nous allons aborder maintenant ce long cheminement de plus de 15 ans qui a construit l'homme de gauche Mitterrand dans le cadre de la 5e République fondée par l'homme de droite de Gaulle. Et sur ce sujet, je passe maintenant la parole à mon camarade Alain Chevard.
D'origine bourgeoise, Mitterrand avait beaucoup à faire oublier pour passer pour un homme de gauche. Ses articles de jeunesse dans la presse d'extrême droite, ses responsabilités politiques sous Vichy, sa poignée de main à Pétain qui lui accorda la Francisque. Il avait animé une petite formation de centre-droit, l'UDSR, Union démocratique et socialiste de la résistance, active dans toutes les combines de la 4e République. Il fut ministre 11 fois, ministre de l'Intérieur en 1954, au démarrage de la guerre d'Algérie. Il avait déclaré à l'Assemblée « L'Algérie, c'est la France, et la seule négociation, c'est la guerre ». Puis en 1956, comme garde des Sceaux du gouvernement socialiste de Guy Mollet, élu pour faire la paix en Algérie, il avait accordé les pleins pouvoirs aux tribunaux militaires, qui avaient fait guillotiner massivement des combattants algériens jusqu'à 5 par jour. Mitterrand, en tant que ministre, avait approuvé l'exécution d'au moins 30 militants du FLN et du communiste Fernand Yvetot, et couvert les tortures pendant la bataille d'Alger. Avant d'être l'homme de la suppression de la peine de mort en 1981, Mitterrand fut celui de son application massive pendant la guerre d'Algérie. Gisèle Halimi, avocate de dirigeants du FLN, se souvenait ainsi de Mitterrand aux élections de 1980. Je la cite. « Durant sa campagne, je réunissais souvent des gens du spectacle. On était tous en train de parler de l'horreur des exécutions capitales. Il a d'abord été silencieux. J'ai voulu évoquer la période algérienne et là, immédiatement, il a changé de sujet. » Toujours est-il que ce carriériste de Mitterrand s'était accroché à son fauteuil de ministre jusqu'au bout, car selon l'aveu de son camarade Roland Dumas, je cite, « Mitterrand était dans le gouvernement Mollet pour des raisons d'opportunité. Il voulait y rester pour être son successeur. » Bref, Mitterrand était tout le contraire d'un homme neuf. Mais contrairement aux dirigeants de la SFIO, c'est-à-dire du Parti Socialiste de l'époque, et à la majorité du personnel politique, il s'était taillé une image d'opposant à De Gaulle dès 1958 en prononçant contre lui un discours virulent à l'Assemblée nationale, alors que celle-ci s'apprêtait à voter l'investiture de De Gaulle sous la pression du coup de force des généraux en Algérie. Il qualifiait les changements institutionnels imposés par De Gaulle de coup d'État permanent. Mais c'est en se servant de la Constitution de la Ve République qui condamnait officiellement qu'il allait construire sa carrière politique. Pour se positionner dans la course à l'élection présidentielle face à la droite, cet homme sans parti et isolé politiquement choisit de rassembler toutes les voix de gauche. Il allait se servir du Parti Socialiste. Et plus que les autres politiciens de gauche, il allait oser s'appuyer sur le Parti Communiste. Un électeur sur quatre votait pour ce parti, qui s'appuyait sur une implantation ouvrière incontestable. Mis au ban de la vie politique pendant la guerre froide, le Parti communiste pouvait espérer se servir de la détente internationale pour sortir de son isolement. L'opération politique s'amorça avec l'élection présidentielle de 1965. Le Mitterrand réunit sur son nom toute la gauche non communiste et il obtient le soutien actif du Parti communiste dès le premier tour, sans aucune contrepartie. La nouvelle direction du Parti communiste, incarnée par Valdez-Crochet, a vu en Mitterrand le moyen d'intégrer le Parti communiste dans l'opposition officielle à De Gaulle. Et c'est Valdez-Crochet qui a convaincu le socialiste Guy Mollet de la candidature Mitterrand. Guy Mollet qui leur aurait d'abord répondu « Mais vous êtes fou, c'est un aventurier !» Car Guy Mollet, tout comme Valdez-Crochet, connaissait le passé de Mitterrand et ils l'ont dissimulé. Selon Roland Dumas, le dirigeant communiste Valdez-Crochet, en échange de son soutien à Mitterrand, exigea l'honneur d'une rencontre officielle et l'élaboration d'un programme commun. La direction du Parti communiste livrait son parti à Mitterrand contre une poignée de main publique dans un couloir de l'Assemblée. Le parti s'engagea à fond. Citons la une de l'Humanité du 18 décembre 1965. Je cite « Démocrates de toutes opinions et croyances, votez Mitterrand pour le progrès de la République, la paix et la véritable grandeur française. » De Gaulle, qui ne doutait pas d'être plébiscité dès le premier tour, fut mis en ballotage car une partie des voix de droite allèrent à un candidat de centre-droit, Le Cadouet. Et ce fut Mitterrand qui fut opposé à De Gaulle au second tour. Le débat télévisé auquel De Gaulle dut se plier permit à Mitterrand de marquer les points. De Gaulle fut élu, bien sûr, mais Mitterrand obtint 45% des voix. Grâce au Parti communiste, Mitterrand était consacré homme de gauche. Mitterrand prolongea son succès de 1965 en se hissant à la direction de la FGDS, Fédération de la gauche démocrate et socialiste, première étape de la reconstruction d'un nouveau parti socialiste. Il s'agissait d'un regroupement entre ce qu'il restait de la SFIO, des radicaux et divers clubs résultant de l'éclatement de la mouvance socialiste. Au nom de la FGDS, Mitterrand signa en février 1968 avec le dirigeant communiste Valdez-Crochet, une déclaration commune, amorce de programme commun. Les événements de mai 68 créèrent une véritable crise politique. La situation échappée à De Gaulle, cela réveilla les ambitions. À gauche, Mitterrand se déclara prêt à assumer la présidence de la République si De Gaulle se retirait, en prenant de court ses partenaires de la FGTS et en lâchant délibérément le Parti communiste. Valdez-Crochet protesta. Par sa bouche, le Parti communiste déclara vouloir prendre, je cite, « dans un gouvernement d'union démocratique, toutes les responsabilités qui sont celles du grand parti des travailleurs qu'est le Parti communiste ». Le parti exigeait la place qu'il méritait, alors qu'il s'apprêtait à étouffer la grève de mai qui dura encore 3 semaines. Mais De Gaulle ne se retira pas. Il dissout l'Assemblée et annonça des élections législatives, certains que la droite en sortirait majoritaire. Les partis de gauche et les syndicats entrèrent dans le jeu de De Gaulle pour noyer la grève dans les urnes. Mitterrand dut remballer ses ambitions et la FGDS ne survécut pas. Quelques semaines seulement après les barricades de mai 68, la droite se voyait renforcée dans une assemblée bleu horizon qu'elle dominait à 80%. Ainsi, les partis de gauche, en acceptant de placer la lutte sur le terrain électoral, avaient préparé leur propre défaite. L'élection présidentielle qui suivit le départ de De Gaulle en 1969 révéla surtout les difficultés de la gauche à accéder au pouvoir, justement du fait du poids du Parti communiste par rapport à celui du Parti socialiste. La FGDS étant fracassée sur mai 68, et Mitterrand étant hors course, la SFIO présenta Gaston Defferre en se passant d'un accord avec le Parti communiste. Le résultat fut sans appel. Le candidat socialiste fit le plus mauvais score de l'histoire de son parti, 5%, loin derrière Jacques Duclos, dirigeant historique du Parti communiste, qui avec 21,5% réalisait une démonstration de force en conservant au Parti communiste son rang de premier parti de gauche. Le candidat communiste fut à deux doigts d'être présent au second tour. Ceux à sa droite comme à l'extrême gauche, qui voulaient en enterrer le Parti communiste après mai 68 en furent pour leurs frais. La droite gagna haut la main. Ce n'était plus De Gaulle au pouvoir, mais son ancien Premier ministre Pompidou. La gauche était de nouveau rejetée dans l'opposition, avec un parti socialiste mal en point et un parti communiste écrasant à gauche, mais à qui on refusait toujours des positions dans les institutions à la mesure de son influence. Le Parti communiste avait donné des gages. Le vote des pleins pouvoirs à Guy Mollet en 1956 pour intensifier la guerre d'Algérie, puis son rôle dans la grève de mai 68, comme le confirme cet éloge du Figaro au Parti communiste. Je cite le Figaro. Entre les étudiants révolutionnaires et la fraction de la classe ouvrière dont ils recherchent l'amitié, une force de l'ordre s'est dressée, solide et rébarbative. De son côté, le Parti communiste, n'étant plus un parti révolutionnaire depuis longtemps, ne pouvait promettre qu'une victoire sur le terrain électoral et la participation communiste à un gouvernement populaire, perspective illusoire, tant que ses partenaires à gauche étaient affaiblis et se dérobaient. Mais cela fut enfin rendu possible par le changement d'attitude du Parti socialiste. Le cuisant échec des socialistes en 1969 relança Mitterrand, l'aventurier sans parti. Le congrès d'Épinay en juin 1971 vit la naissance du Parti socialiste, constitué d'un nouveau regroupement de ce qui restait de la SFIO et de divers clubs, dont celui de Mitterrand. Et dès ce congrès, Mitterrand s'empara de la direction du Parti socialiste sans même avoir sa carte d'adhérent socialiste. Bien qu'affaibli, le Parti socialiste était un parti historique de notables, à qui Mitterrand imposa la mue nécessaire pour en faire un instrument à la mesure de ses ambitions. Il engagea le nouveau parti vers une alliance électorale avec le Parti communiste à une courte majorité, il est vrai. Au congrès d'Épinay, Mitterrand adopta un ton radical, propre à rendre attractif aux jeunes générations et aux électeurs communistes ce nouveau parti socialiste. Et il n'y est pas allé de main morte, je le cite. « Violente ou pacifique, la révolution, c'est d'abord une rupture. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. » En revanche, le socialiste Pierre Mauroy justifia ainsi les conditions d'une alliance avec le Parti communiste. Je le cite. « La gauche a besoin du concours du Parti communiste et de la participation du Parti communiste pour battre la droite et la réaction. Mais de la même façon, camarades, une gauche dominée par le Parti communiste n'a aucune chance d'accéder au pouvoir. Une gauche dominée par le Parti communiste serait le plus beau cadeau que nous pourrions faire à l'UNR. » L'UNR étant l'ancien nom du Parti gaulliste. Les dirigeants socialistes qui engagèrent leur parti dans la signature du programme commun de gouvernement de 1972 avec le PC et les radicaux de gauche ne cachaient pas leurs ambitions. Le PS, sous la conduite de Mitterrand, avait l'aspect rassurant d'un parti de gouvernement. Mais l'accès au pouvoir avec le Parti communiste n'était acceptable pour la bourgeoisie qu'avec un parti communiste affaibli et domestiqué. Ce que Mitterrand confirma à un congrès de l'Internationale socialiste. Je cite « Notre objectif fondamental, c'est de refaire un grand parti socialiste sur le terrain occupé par le Parti communiste, afin de faire la démonstration que sur 5 millions d'électeurs communistes, 3 millions peuvent voter socialiste. » Message reçu, 5 sur 5, par le dirigeant communiste Georges Marchais, qui déclara quelques jours plus tard au comité central du Parti communiste. Alors je le cite, il serait dangereux de se faire la moindre illusion sur la sincérité ou la fermeté du Parti socialiste. Il est clair que la conclusion d'un programme commun de gouvernement dans lequel le Parti socialiste jouerait un rôle important donnerait à celui-ci des bases dans son effort pour se renforcer à notre détriment. Ce passage de l'intervention de Georges Marchais, qui annonçait la suite, n'a pas été publié dans l'Humanité. Car les dirigeants du Parti communiste présentèrent la signature du programme commun comme une victoire politique d'une portée immense qui consacrait la sortie du tunnel pour le PC depuis son éviction du gouvernement en 1947. Le dirigeant socialiste Gilles Martinet avoua à propos de Mitterrand. Et le voilà qui commence à évoquer la rupture avec le capitalisme et la lutte de classe. Alors quand il le faisait, je dois dire que je regardais mes souliers, parce que la sincérité ne débordait pas de ce genre de propos. Il fallut bien tout le poids du Parti communiste pour faire passer cet homme de la bourgeoisie pour un ami des travailleurs. Et les militants du Parti communiste, finalement convaincus par les mensonges de leur direction, distribuèrent peut-être 1 million d'exemplaires du programme commun dans les usines, les quartiers, les lycées, et ne toléraient aucune critique contre Mitterrand. Ils engageaient tout le crédit de leur parti et leur propre crédit dans le soutien à Mitterrand. Mais que contenait donc de si attractif ce programme commun de gouvernement pour les nouveaux militants socialistes et surtout pour les militants communistes? Le programme commun tel qu'il fut signé entre les trois partis de gauche ne remettait pas en cause les institutions de la Ve République et encore moins la domination de la bourgeoisie et le rôle de l'impérialisme français dans le monde. Mais ces formulations étaient taillées sur mesure pour laisser croire que son application changerait la situation des travailleurs. Un extrait sur les nationalisations. Pour briser la domination du grand capital et mettre en œuvre une politique économique et sociale nouvelle, le gouvernement réalisera progressivement le transfert à la collectivité des moyens de production les plus importants et des instruments financiers actuellement entre les mains des groupes capitalistes dominants. Cela sonne très révolutionnaire. Et puis, toutes les trois pages, il était question de contrôle des travailleurs, d'intervention des travailleurs dans les décisions. Sans compter la dénonciation des mesures rétrogrades et anti-ouvrières de la politique gaulliste, des lois anti-casseurs qui permettaient de condamner tout participant pour les incidents dans une manifestation, des restrictions au droit de grève, de la peine de mort, des tribunaux militaires. Évidemment, comparé à ce qu'on entend aujourd'hui à gauche, ou à la gauche de la gauche, la lecture superficielle d'un tel programme pouvait donner l'illusion que le Parti socialiste, le Parti communiste et les radicaux de gauche voulaient vraiment changer la vie. Mais pour changer vraiment leur vie, les travailleurs doivent s'attaquer au pouvoir des possédants. Et cela n'est possible qu'avec la mobilisation large et consciente de la classe ouvrière. Cela signifie s'attaquer au système capitaliste et le renverser. Ces affirmations ambiguës laissaient entendre que ce serait possible par la voie électorale en amenant un Mitterrand au pouvoir. Ce programme annonçait des changements, mais en n'indiquant pas les moyens de les obtenir. Il était suffisamment vague pour ne s'engager sur rien, pour que ces partis ne puissent pas être acculés à respecter leurs engagements face à un mouvement comme mai 68 ou une lame de fond comme juin 36. Et surtout, il demandait aux travailleurs de confier leur sort à une équipe politique dont tout le passé montrait qu'elle était liée à la bourgeoisie. Les possédants, pour autant, ne voyaient pas tous d'un bon œil une victoire possible de la gauche unie autour du programme commun. La famille Bettencourt mit préventivement sa fortune à l'abri à l'étranger en signant un accord avec le groupe américano-suisse Nestlé en 1974. À l'opposé, les socialistes se liaient à de grands patrons dits de gauche, comme Jean Ribou, dirigeant de la multinationale Schlumberger, qui a financé le journal Libération et a publiquement appelé à voter pour Mitterrand en 1974. Convaincu de l'utilité de sa politique, Ribou allait devenir un des conseillers privés du président Mitterrand après 81. Par ailleurs, le mouvement de mai 68 avait levé une génération de militants et suscité des mobilisations sur des terrains divers. Le développement du mouvement féministe force à la droite au pouvoir à adopter le droit à l'avortement. L'époque connut aussi des grèves, dont certaines échappèrent aux directions syndicales. L'extrême-gauche gagna une expression publique, mais sans parvenir à concurrencer le Parti communiste dans la classe ouvrière. Malgré son rôle de frein qu'il joua pendant mai 68, le Parti communiste recruta bien plus de jeunes travailleurs mêlés aux événements que l'extrême-gauche, parce que son implantation était incomparable. Le Parti communiste conservait son influence dans la classe ouvrière. Quant au Parti socialiste, il introduisit dans son programme certaines idées dans l'air du temps. Une pincée d'autogestion, un peu de féminisme, de l'écologie, une lichette de régionalisme et quelques états d'âme sur la bombe à neutrons. Finalement, le Parti socialiste de Mitterrand a réussi à tirer à lui la nébuleuse petite bourgeoise, politique ou syndicale, qui se situait sur sa gauche dans la foulée de mai 68 et qui lui apporta un certain renouvellement. Et le programme commun, qui se voulait un débouché politique à mai 68, 68, comme on dirait d'aujourd'hui, joua parfaitement son rôle en canalisant les revendications sur le terrain électoral. Contrairement à ce que certains voulaient faire croire, l'unité à gauche ne suscita aucune mobilisation d'ampleur et il n'y eut pas de réplique à mai 68. Au premier tour de l'élection présidentielle de 1974, consécutive à la mort de Pompidou, Mitterrand eut le soutien inconditionnel de toute la gauche. Seule notre candidate, Arlette Laguiller, rappela le passé de Mitterrand, qui avait pourtant oublié. Mitterrand ne fut pas le candidat commun de la gauche, mais le candidat unique, nuance. Il mena sa propre campagne, avec le soutien inconditionnel des militants de gauche, sans daigner consulter leurs dirigeants, et sans même reprendre le programme commun signé 2 ans plus tôt. Comme en 1965, selon un scénario bien rodé, Mitterrand captait des voix sur sa droite, pendant que les partis socialistes et surtout communistes lui assuraient les voix populaires. Malgré l'alignement de toute la gauche derrière Mitterrand, il fut battu par le candidat de droite Giscard, de peu, et cela créa de la déception. Giscard n'était pas gaulliste, mais la droite emportait encore pour plusieurs années. Mais cette candidature unique de la gauche dès le premier tour eut d'énormes conséquences. Tous ces partis, en premier lieu le Parti communiste, ont habitué de nouvelles générations de militants et d'électeurs à tout faire dépendre d'une victoire du Parti socialiste et même à différer les conquêtes ouvrières essentielles au lendemain d'une telle victoire. Par cette attitude, le Parti communiste, qui avait gardé jusque-là toute sa force, prêtait la main à son propre déclin. Car pourquoi soutenir et voter pour les candidats du Parti communiste si l'essentiel c'était la victoire des socialistes? Le soutien du PC à Mitterrand produisit l'effet envisagé par Marché lui-même en 1972, la progression du PS au détriment du PC. Le PC ne ménagea pas sa peine pour apparaître présentable. Il dénonça le stalinisme et ses méfaits. Il prit officiellement ses distances avec l'Union soviétique à son 12e congrès en 1976, où il abandonna la référence toute théorique, il est vrai, à la dictature du prolétariat, et il se rallia à la force de frappe. L'homme qui incarnait cette politique, c'était Georges Marchais. Certains militants du Parti communiste se souviennent de Marchais avec nostalgie. Comme d'un authentique dirigeant communiste, ils appréciaient sa manière de rentrer dans l'arbre à droite. Mais Marchais a été avant tout l'homme qui assura la transformation du Parti communiste d'un parti d'opposition, bien malgré lui, en parti social-démocrate de gouvernement, presque comme les autres. Mais il n'y avait pas de place pour deux partis sociaux-démocrates. Lors des élections municipales de 1977, le total des voix de gauche dépassait légèrement les 50%, alors que celle de la droite totalisait à peine 42%. Mais il ne s'agissait pas d'une radicalisation, car à l'intérieur de la gauche, le Parti socialiste prenait des voix au Parti communiste jusqu'à lui passer devant. Le Parti socialiste remportait 81 villes de plus de 30 000 habitants, alors que le PC n'en remportait que 72. Ces résultats confirmaient ceux des élections cantonales de l'année précédente, qui avaient vu le PS avec 26% des voix dépasser le PC, qui ne récoltait que 23% des voix. Le Parti socialiste, au plus bas en 1969, avait réussi à s'imposer sur le plan électoral, mais aussi à se développer et à former une nouvelle génération de militants. Le PC tenta alors de reprendre en main son électorat en 1977 en rompant l'unité avec les socialistes. Il prit prétexte dans les discussions sur la réactualisation du programme commun, du nombre insuffisant de nationalisations prévues et du montant du SMIC. Entre 1977 et 1981, le PC durcit son langage. Renouant avec un cours pro-soviétique, Marchais approuva de manière fracassante l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Le PC, à travers la CGT, eut aussi un cours plus radical, qui réconforta les militants ouvriers du PC. Mais l'objectif n'était pas de renforcer la conscience et le moral des travailleurs. C'était de faire des démonstrations politiques pour être en meilleure position pour négocier avec le Parti socialiste. Et ce cours plus radical n'empêcha pas l'effritement de son influence. Car dans cette affaire aux yeux des travailleurs, le PS apparaissait unitaire pour deux, et cela lui profita. lors des élections législatives de 1978, alors que les deux partis se présentèrent en concurrence, le PS obtint 104 sièges de députés contre 86 pour le Parti communiste. La droite l'emporta largement, mais le Parti communiste dut assumer la défaite de la gauche. Ces tournants à 180 degrés dans l'attitude du PC rencontrèrent l'incompréhension des travailleurs. Le mal était fait, une partie conséquente des milieux populaires attendait une amélioration de leur sort d'une victoire de la gauche aux élections. Sur le fond, le PC n'avait d'autre politique qu'une alliance avec le Parti socialiste. Il aborda l'élection présidentielle de 1981 en position de faiblesse, laissant l'initiative à Mitterrand et au Parti socialiste. Les efforts des partis de gauche pour se hisser au gouvernement se déroulaient sur fond d'une crise économique qui allait s'aggravant au travers des deux chocs pétroliers de 1974 et 1979. La politique de la bourgeoisie consistait à maintenir coûte que coûte ses profits au détriment de la classe ouvrière, sur laquelle le chômage pesait de plus en plus. En France, le nombre de chômeurs passa de 260 000 en 1970 à 500 000 en 1974, pour avoisiner 1,5 million au début de l'année 1980, soit 6% de la population active. Mais ce n'était pas la politique au service des grands groupes capitalistes qu'entendait remettre en cause le Parti socialiste et son premier secrétaire. Tout devait se résoudre avec le changement des gouvernements. Et si le PC marchait de leur côté, mettait en cause la politique des grands trusts, il défendait comme seule perspective le changement de majorité et la venue de la gauche au gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement dirigé par les socialistes. Mitterrand, quant à lui, avec des trémolos dans la voix, stigmatisait le spectre du chômage, annonçant que si Giscard, qu'il appelait « Monsieur Chômage », était réélu, le cap des 2 millions de chômeurs serait dépassé. Triste prévision que sa propre politique allait réaliser en quelques mois. En réalité, tous ses dirigeants savaient bien que pour enrayer la montée du chômage, il ne suffisait pas de chasser Giscard. Les travailleurs, pour leur part, firent avec les licenciements massifs dans la sidérurgie ce qu'il adviendrait d'eux s'ils ne se défendaient pas. Cela faisait des années que les barons de la sidérurgie, avec au premier rang la famille Devindel-Sellières, avaient laissé à l'État et à ses finances la charge financière et sociale de la reconversion de ce secteur, dont ils voulaient sortir au plus vite, au meilleur prix, pour aller placer ailleurs leurs capitaux. Une nouvelle étape de cette prise de contrôle complète de l'État, avec le rachat au prix fort de leurs actions, assorti d'un nouveau plan de 21 000 suppressions d'emplois, fut annoncé en 1978. La Lorraine et le Nord-Pas-de-Calais furent touchés de plein fouet. On assista à une véritable révolte ouvrière dans ces deux régions. De Denain à Longwy, les travailleurs soutenus massivement par une grande partie de la population de ces régions ouvrières tenaient le haut du pavé. Des villes entières, malgré l'envoi de milliers de CRS et de gardes mobiles, se retrouvaient de fait sous contrôle de la population. Mais il fallut tout le poids des appareils syndicaux et politiques pour mener dans les impasses et isoler ce mouvement qui marquait toute la classe ouvrière du pays et inquiétait à juste titre patrons et gouvernements. Les syndicats, pour donner le change à leur politique démobilisatrice, se délivrèrent des brevets de radicalismes artificiels avec quelques coups d'éclat minoritaires et spectaculaires. Le PC, en pleine campagne pour les élections européennes sur le thème « Non à l'Europe allemande », organisa le blocage des trains de minerais suédois et mauritaniens. Le PC se posait en meilleur défenseur des intérêts de l'industrie française face au pouvoir giscardien. Dans les manifestations, on vit le slogan « La Lorraine, c'est la France, et la France, c'est notre pays ». Ce qui n'était pas très mobilisateur pour les 40% de sidérurgistes immigrés du bassin Longwy. La plus grande mobilisation ouvrière de la présidence de Giscard fut donc dévoyée. Si l'État lâchait les mesures sociales d'apaisement, les fermetures d'usines et les dizaines de milliers de licenciements furent appliqués. À aucun moment, le chemin permettant de conduire vers une riposte d'ensemble des travailleurs contre les coups du patronat ne fut défendu par aucun dirigeant politique ou syndical. Tous unis, ils martelaient « Il faut chasser Giscard et permettre par nos votes l'arrivée d'un gouvernement de gauche. Et alors, on verrait ce qu'on verrait. » Mitterrand, quant à lui, promettait que la gauche, elle, ne supprimerait pas un emploi de plus sans qu'il soit remplacé. Il confirma ce serment, fraîchement élu président, sur les marches de l'hôtel de ville de Metz en 1981. Mais là aussi, les travailleurs allaient voir ce que valaient ses promesses et la réalité de ce changement promis. La lutte des sidérurgistes fut un avertissement sérieux au patronat. La crise, avec ses conséquences sociales, n'avait pas encore atteint ses sommets. L'extension du chômage devenait la préoccupation majeure et agitait la vie politique. Mais les mesures étaient reportées au lendemain de l'élection présidentielle de 1981. Sur le terrain de la propriété capitaliste, la marge de manœuvre des gouvernements était étroite. La gauche dominée par Mitterrand voulut faire la démonstration aux possédants qu'elle était la mieux placée pour faire accepter les sacrifices à la population. La victoire de Mitterrand à l'élection présidentielle de 1981 a été davantage déterminée par la désaffection de l'électorat de droite au second tour qu'à une poussée à gauche. Le premier tour de l'élection de 1981 a montré que la droite restait majoritaire dans le pays, mais qu'elle était divisée. La situation à la fin du règne de Giscard était catastrophique. Le chômage avait quadruplé depuis 1974, l'inflation atteignait 13%. Et Giscard menait grand train, se livrait à des parties de chasse en compagnie du gratin de la finance et de la politique, avec certes certains socialistes comme Gaston Defferre. Des humoristes représentaient Giscard en Louis XV avec perruque, ou bien avec des diamants à la place des yeux, les fameux diamants offerts par les dictateurs africains Bocassin. Aussi, ses adversaires gaullistes à l'intérieur de la droite, menés par Jacques Chirac, utilisèrent ces difficultés pour contribuer à sa défaite de la présidentielle de 1981. Au-delà de ces problèmes au sein du Parti socialiste, Mitterrand dut faire face à l'opposition du Parti communiste qui présenta son propre candidat, Georges Marchais. Ce dernier fut très agressif, dénonçant la bande des Trois, Chirac, Giscard, Mitterrand. Le PC sortit un temps des archives le rôle de Mitterrand pendant la guerre d'Algérie. Toute chose que le Parti communiste n'avait pas dite à la signature du programme commun, ni les années suivantes. Marchais releva que Mitterrand, je cite, « a promis des aides supplémentaires au patron. Il a dit non au ministre communiste. Vous le voyez, un danger existe. Retrouvez demain le Parti socialiste aux côtés de la droite pour suivre la même politique. » Les menaces de Marchais exprimaient les inquiétudes de l'appareil PCF face à l'accentuation du décrochage électoral du parti face au PS, depuis qu'il s'était rallié à la candidature unique de Mitterrand en 1974. Cela traduisit surtout l'appréhension de ne pas participer au futur gouvernement avec les socialistes. Les zigzags de Marchais prenaient les militants à contre-pied et heurtaient les illusions unitaires des travailleurs que le PC avait suscitées. À l'élection de 1981, le Parti communiste fit son plus petit score depuis la guerre, 15%, 10 points derrière Mitterrand. Il perdait 1,5 million de voix. C'était une catastrophe dont Mitterrand tira parti. Nul ne pouvait accuser Mitterrand d'être l'otage d'un parti communiste hostile et affaibli. Aussi récupéra-t-il au second tour les voix de déçus de Giscard, en plus des voix communistes, ce que Mitterrand confirma, je cite, « Pour me permettre d'arriver au pouvoir, dit-il au dirigeant communiste Marcel Rigoux, il fallait que votre parti soit diminué par rapport au mien, sinon les gens auraient eu peur. Mais je me suis trompé, je vous voyais à 18%. Je n'avais pas imaginé que Marchais vous ferait tomber si bas. Vous m'avez trop aidé. » C'est avec amertume que certains militants du PC ont fait campagne pour Mitterrand au second tour, qui vainquit Giscard de 1 million de voix. Les électeurs de gauche qui manifestèrent leur joie place de la Bastille le soir du 10 mai 1981 pensaient que la fin du règne de la droite et l'arrivée de la gauche au gouvernement allaient ouvrir une période de profond changement. C'est en toute confiance qu'ils plaçaient leur avenir entre les mains d'un Mitterrand. Mitterrand endossait enfin le costume taillé sur mesure pour De Gaulle. Il pouvait être satisfait. Le dévouement, la mobilisation persévérante de centaines de milliers de militants au premier rang desquels celui du Parti communiste aboutissait à son couronnement. Enfin, 9 ans après la signature du programme commun, La gauche parvenait unie au pouvoir, le PS et toutes ses tendances, le PC, les radicaux de gauche et même un gaulliste de gauche, Michel Jobert. À quoi allait servir cette unité ? Et à quoi allait servir aux travailleurs qui faisaient confiance au Parti communiste d'avoir des camarades ministres au gouvernement ? La vague rose des législatives de 1981 profita d'abord au Parti socialiste. Le PS se retrouvait à voir à lui seul la majorité des nouveaux députés de cette Chambre rose. Il pouvait gouverner sans le PC, qui aurait pu, comme en 1936 ou en 1956, soutenir le gouvernement sans y participer. Mais Mitterrand appela tout de même quatre ministres communistes au gouvernement. Charles Fitterman, ministre d'État au transport, Marcel Rigoux à la formation professionnelle, Jacques Ralitz à la santé et Anice Eleport à la fonction publique. En 1981, appeler le PC au gouvernement n'avait rien d'une évidence. Ces années ont connu un regain de tension entre les États-Unis et l'Union soviétique, portant sur la présence de missiles soviétiques proches de l'Europe occidentale. Le mouvement de grève en Pologne était sous la menace de l'état de siège. Il y avait comme un climat de guerre froide. Et le PC sentait encore un peu le souffle, et vanté, il est vrai, par les expériences de participation communiste au Portugal et en Espagne, où les partis communistes avaient facilité les transitions politiques à la chute des dictatures. La grande bourgeoisie française avait toute confiance en Mitterrand, pour savoir que ses intérêts seraient défendus, ministre communiste ou pas. Mais Mitterrand lui expliquait aux dirigeants américains qui voyaient d'un mauvais œil la présence de ministres liés à l'Union soviétique dans un gouvernement occidental, l'avantage de ministres communistes dans son gouvernement. Il expliqua au vice-président George Bush que la participation d'un parti communiste affaibli était, je cite, le moyen de ramener le communisme à son vrai niveau. Il confia à l'homme de droite, Charles Vandelmas, où il voulait en venir. Je cite, « J'ai besoin des communistes. Je vais les utiliser. Je vais continuer à les réduire. À moins qu'ils ne reçoivent un ordre de Moscou, ils ne romperont pas. Ils ne vont pas bouger. Je les aurai à la main, au moins jusqu'au municipal. » Mitterrand voulait que les ministres communistes et leur parti, dont l'implantation ouvrière était plus large que celle du Parti socialiste et dans des couches plus exploitées, lui servent d'abord de caution et de protection. Le Parti communiste l'aiderait, grâce à son crédit et à ses dizaines de milliers de militants, à faire accepter la sale politique au service de la bourgeoisie qu'il se préparait à mener. Il voulait voir les dirigeants communistes ligotés quand il aurait à s'en prendre au milieu populaire. Bien sûr, il savait que le Parti socialiste perdrait du crédit. Il le prédit lui-même au baron du Parti socialiste le soir des législatives de 1981 face à la vague rose. Regardez bien cela, vous ne le reverrez plus. Mais il savait aussi que le Parti communiste serait encore bien plus touché car sa base ouvrière serait la plus atteinte par sa politique, que se préparait à mener le prochain gouvernement de gauche. La bourgeoisie serait redevable à Mitterrand d'avoir à ce point paralysé et réduit le Parti communiste. Non pas par crainte de ses dirigeants, mais parce que malgré ceci, malgré sa politique, le Parti communiste maintenait vivant l'idée d'une autre société possible face au capitalisme. Mais là encore, c'est en toute connaissance de cause que les dirigeants du PC trompèrent les travailleurs. Ils prétendaient exercer un contrôle sur la politique du Parti socialiste, dans le sens des intérêts des travailleurs. Mais dès la nomination des ministres communistes, Marché oubliait ses critiques. Je cite, « Mitterrand est vraiment un homme de gauche, je m'étais trompé. » Il oublia aussi tous les motifs de la rupture du programme commun en 1977 et s'engagea à jouer le jeu de la solidarité gouvernementale. Voilà à quoi servit l'unité de la gauche au gouvernement, à faire des ministres communistes des otages. Les ministres communistes n'eurent aucune influence sur la ligne fondamentale de la politique gouvernementale. En revanche, Mitterrand eut à travers eux le PC à sa main et à travers lui la CGT. Le succès suprême de cette union de la gauche, son installation au pouvoir, allait très vite se révéler comme une formidable machine de guerre contre les travailleurs et les milieux populaires. Ce qui allait se révéler comme un désastre politique et social pour le monde du travail et aussi pour le Parti communiste, n'empêche pas ses anciens ministres d'avoir toujours la nostalgie de ce temps-là. Jacques Ralite racontait ainsi ultérieurement sa nomination, je cite. « C'est que ce n'est pas commun ce qui vous arrive là. Vous devenez ministre. Vous vous rendez compte ? Ne m'en parlez pas trop, j'aurai les larmes aux yeux. » Le ministre des Transports, Charles Fitterman, eut droit aux honneurs particuliers d'un ministre d'État, refusé à certains de ses prédécesseurs de droite. Il fut logé dans le prestigieux hôtel de Roquelaure, XVIIe siècle, avec salon élégant, appartement de fonction et grand jardin. Honneur qu'il fit partager à des représentants de l'appareil du Parti communiste, pour qui, je cite, « la quête éperdue de la reconnaissance sociale passait par une certaine valorisation du costume trois pièces », selon un journaliste des Échos. Fitterman joue à fond son rôle de ministre de Mitterrand, se faisant donner du « monsieur le ministre » par les journalistes de l'Humanité et les syndicalistes en délégation. Il mit en évidence dans son bureau la maquette du TGV, appelé le train de la très grande victoire par la presse du parti, faisant passer pour une conquête de la gauche, voire une très grande victoire pour les travailleurs, ce qui était surtout une victoire des trusts chargés de la fabrication du TGV. On découpe en général ces années de gauche au gouvernement en deux périodes. Dans un premier temps, il y aurait eu des vraies mesures de gauche. Abolition de la peine de mort, augmentation sensible du SMIC, du minimum vieillesse et des allocations familiales, retraite à 60 ans, cinquième semaine de congés payés, nationalisation, nouveaux droits des travailleurs. Puis face aux réalités économiques, une politique de rigueur. En réalité, les choses sont plus complexes. Une des très rares promesses tenues par Mitterrand et la gauche fut l'abolition de la peine de mort en 1982. Une partie de la droite avait justifié son maintien à travers des campagnes sécuritaires répugnantes. Mais elle soulevait tant d'indignation que, de fait, aucune condamnation à mort ne fut prononcée après 1977. Même une partie de la droite, comme Chirac et Fillon, vota sa suppression en 1981. La fin de cet acte barbare est incontestablement un progrès de société. Mais cela ne changeait évidemment pas la vie des travailleurs et n'avait aucune conséquence, en particulier financière, pour les capitalistes. Le gouvernement prétendait lutter contre le chômage par la relance de la consommation. Et si l'une de ses premières mesures fut l'augmentation spectaculaire du SMIC de 10% en juin 80, il n'y eut pas de véritable augmentation du pouvoir d'achat de la population laborieuse. D'abord parce qu'il s'agissait d'un coup de pouce de 5% seulement par rapport à l'augmentation déjà prévue au 1er juillet, en fonction de la hausse officielle des prix. L'année suivante, le coup de pouce fut de 4%. Mais ces coups de pouce ne concernaient que les salariés au SMIC, qui à l'époque représentaient moins de 5% des salariés. Car le gouvernement avait insisté pour que cette hausse ne se répercute pas sur les autres salaires. Certes, la revalorisation de 50% en deux fois des allocations familiales a permis de compenser pour certaines familles la hausse officielle des prix, mais certainement pas d'augmenter significativement le pouvoir d'achat de la classe ouvrière. Les prix ont continué à augmenter au rythme officiel d'environ 10% les deux années suivantes, et le gouvernement socialiste lui-même y a fortement contribué, augmentant les taxes et les tarifs des services publics, reprenant d'une main ce qu'il donnait de l'autre. En moins de deux ans, il a augmenté les tarifs de l'électricité de 26%, ceux du gaz de 24%, ceux de la SNCF de 20%. Il a augmenté les taxes sur les tabacs de 22%, a doublé la taxe sur les assurances automobiles, a augmenté deux fois les taxes sur l'essence, etc. Sans compter les deux dévaluations du franc en un an qui ont contribué à rogner encore le pouvoir d'achat. Dans ces conditions, le pouvoir d'achat de la population laborieuse n'a pas augmenté et beaucoup ont même vu leur niveau de vie reculer, en particulier les retraités dont les pensions ont été revalorisées bien moins que la hausse des prix. D'ailleurs, le ministre socialiste de l'économie, Jacques Delors, avec sa morgue de hauts grands fonctionnaires, a reconnu que les mesures prises en faveur des travailleurs ne sont que des aumônes. Je le cite, « La gauche ne peut pas arriver au pouvoir sans prendre quelques mesures » pour ses électeurs qui sont les plus défavorisés du pays. Autant dire que la relance de la consommation n'a jamais eu lieu et que la prétention du gouvernement de réduire ainsi le chômage n'était que de la poudre aux yeux. Déjà dès l'automne 1981, les hommes du pouvoir parlaient du recentrage nécessaire de la politique du gouvernement. Parti faire en janvier 1982 une tournée dans les grandes entreprises pour vanter sa politique et annoncer ses prochaines ordonnances, Mauroy prêcha la nécessité de relever les défis industriels, la nécessité de produire mieux et plus, de faire des efforts. Si cela pouvait apparaître encore obscur et flou pour les travailleurs, la ligne était claire pour le patronat. Le gouvernement Mauroy promulguait donc, en ce début 1982, un certain nombre d'ordonnances. Celles-ci avaient un volet sur la réduction du temps de travail. Mitterrand avait promis 39 heures, on dut se contenter de 39 heures, dont l'indemnisation complète n'est pas prévue, et restait à négocier avec les employeurs. Venait ensuite la cinquième semaine de congés payés, mais celle-ci devait se mettre en place après négociation, et les employeurs pouvaient reprendre en échange tout ou partie de ce qui existait sous forme de jours de congés, voire de pauses. Et puis surtout, le gouvernement Mauroy en profitait pour effectuer une modification importante du droit du travail que la droite n'avait même jamais osé évoquer, en remettant en cause le principe du calcul du temps de travail sur la semaine. Pour la première fois, ces ordonnances, certes dans le cadre de négociations histoire de faire passer la pilule, instituaient la possibilité de mettre en place la flexibilité des horaires, mettant ainsi les travailleurs à la disposition de leur patron tout au long de l'année, sans que celui-ci n'ait même d'heures supplémentaires à payer. Ce sont les travailleurs qui, en s'invitant directement dans le débat, allaient priver le patronat du bénéfice de ce gros cadeau du gouvernement de gauche. En effet, en réaction aux appétits des patrons lors des négociations qui s'ouvraient en février 82 pour la mise en place de ces mesures, des grèves, parfois très dures, éclatèrent dans le pays. De la métallurgie à l'automobile jusqu'aux employés de supermarchés, bien des secteurs connurent des réactions de protestation souvent spontanées, qui mettaient parfois des milliers de travailleurs en mouvement. Cela inquiéta le patronat et le gouvernement. Mitterrand annonça que le passage aux 39 heures serait partout indemnisé à 100%. Quant au patronat, il préféra repousser la mise en place de la flexibilité à plus tard. Mais il faut reconnaître à la gauche, sur ce terrain, des mesures anti-ouvrières, une constance et une profonde fidélité à ses engagements. Car de retour au gouvernement en 1997, Jospin et Martine Aubry instaureront la flexibilité généralisée au service des patrons à l'occasion des 35 heures. En mars 82, la retraite à 60 ans fut acquise. C'était la concrétisation d'une revendication du mouvement syndical qui qualifiait la retraite à 65 ans de retraite pour les morts, car bien des travailleurs n'atteignaient pas l'âge de la retraite. Mais elle ne coûta rien au patronat, car leur retraite, les travailleurs se la payaient eux-mêmes par leurs cotisations. Et les employeurs n'étaient pas fâchés de se débarrasser à bon compte des travailleurs usés. Avant la mesure législative qu'allait prendre le gouvernement Mauroy, bien des entreprises, avec l'accord des caisses de la sécurité sociale, faisaient partir leurs salariés à 60 ans. À l'époque, les caisses de retraite étaient pleines, et ce n'est pas la retraite à 60 ans, mais l'extension du chômage et les baisses de cotisations patronales accordées par le gouvernement de droite comme de gauche qui ont depuis creusé les déficits. Il est bien difficile de dire que ces mesures ont changé la vie. Dès le départ, la politique de relance, s'il ne relança guère la consommation, relança bel et bien les cadeaux aux entreprises, il fut l'exact prolongement de la politique de la droite. Encore et encore des subventions au patronat, des allègements de charges sociales, par dizaines de milliards de francs, doublant presque les sommes que Giscard avait prévu de donner en 1981. Prétendant là aussi que cela allait créer des emplois et suppliant en vain les patrons de bien vouloir jouer le jeu. Mais les profits passaient avant toutes les supplications. Et le gouvernement n'a jamais contesté le pouvoir du patronat sur l'économie. Il s'en est même défendu à plusieurs reprises, réaffirmant le pouvoir des patrons dans leur entreprise. Le droit de veto sur les licenciements, prévu dans le projet socialiste, disparut des lois Auroux, censées donner des droits d'intervention aux syndicats et aux travailleurs dans les entreprises. Les lois Auroux, avoua le ministre communiste Fitterman, je cite, n'ont en rien été une prise de pouvoir des salariés dans l'entreprise. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elles autorisaient même les syndicats à signer des accords qui dérogeaient aux lois et aux règlements en vigueur. Le gouvernement socialiste s'efforçait de faire passer un message au patronat, et Mauroy lui-même le résumait crûment. Je le cite. Les chefs d'entreprise comprendront-ils que la gauche au pouvoir apporte aux entrepreneurs ce que la droite n'a jamais pu leur assurer ? Un climat social de négociation et non d'affrontement. La gauche a mené la politique du capital pendant qu'elle demandait aux travailleurs la patience. Les impatients furent sommés de laisser le gouvernement gouverner, et comme l'heure était à l'unité, les mécontents furent accusés de faire le jeu de la droite par les militants socialistes et communistes, chargés de mettre au pas la classe ouvrière. Dès 1982, le gouvernement de gauche se lança dans un vaste programme de nationalisation, alors qu'à l'époque, d'autres gouvernements comme Thatcher en Angleterre tentaient de privatiser des entreprises publiques. De là à dire que ces nationalisations étaient de gauche et les privatisations de droite, il n'y a qu'un pas franchi par des politiciens comme Jean-Luc Mélenchon qui affirmait récemment à France Inter, je cite, « Nous avons nationalisé le tiers de l'industrie française et la totalité des banques. Il n'y a pas ça dans le programme de lutte ouvrière aujourd'hui. Nous étions persuadés qu'avec ce programme, nous allions vers le socialisme. » Le programme de lutte ouvrière, qui comprend l'expropriation de toute la bourgeoisie à commencer par les banquiers, n'a rien à voir ni avec la nationalisation à la sauce Mitterrand, ni avec le prétendu socialisme de l'ancien ministre de Jospin, Jean-Luc Mélenchon. Des banques et du crédit qu'avait opéré de Gaulle après la Deuxième Guerre mondiale, soit 29 banques et 2 sociétés financières, Paribas et Suez. À cela s'ajoutait la nationalisation de 5 grands groupes industriels, Saint-Gobain, Pechiney-Kuhlmann, Thomson, CGE et Rhône-Poulenc. La droite protesta pour le principe et pour faire monter les enchères. Le gouvernement de gauche accepta de bonne grâce de majorer à plusieurs reprises le montant des indemnisations qui dépassèrent largement la valeur des actions. Bien loin de se voir expropriés, les actionnaires et la grande bourgeoisie en tirèrent un super bénéfice inespéré. On évalue cette manne avec les intérêts servis à un total de près de 90 milliards de francs de l'époque, l'équivalent du déficit budgétaire de 1980. Cela permit aux grands bourgeois possesseurs de ces entreprises non pas de procéder à des investissements productifs, mais de réaliser des placements financiers. La spéculation, entre autres à la bourse, connut un nouvel essor avec tous ses effets néfastes. Quant à la dette de l'État, elle s'alourdit d'autant. Le tout allait être présenté sous forme de notes à payer par le même gouvernement avec les mesures d'austérité à venir. Les entreprises publiques industrielles servirent, je cite, « à mieux irriguer le tissu industriel en amont et en aval » comme le préconisait Jacques Delors, grâce à des contrats passés à prix d'amis. L'utilisation des entreprises publiques comme vache à lait pour le privé est l'un des nombreux moyens dont l'État dispose pour soutenir les profits de la bourgeoisie. Et le gouvernement socialiste en a disposé tout comme la droite. La nationalisation des banques, quant à elle, n'avait pas comme objectif de rationaliser et de rendre utile pour la bonne marche de l'économie la circulation de l'argent. Il n'y eut jamais la volonté d'unifier en un tout cohérent l'ensemble du système financier en créant une seule banque centralisant les capitaux disponibles pour agir efficacement. Le gouvernement socialiste, pas plus que la droite, n'a voulu se donner ce levier puissant d'intervention économique et sociale. Les grandes banques nationalisées restèrent concurrentes et opaques, continuant à servir les affaires privées et parfois douteuses des grands bourgeois. Elles leur prêtaient de l'argent bon marché, voire gratuitement, sans exiger toujours de garantie. Le scandale du Crédit Lyonnais, qui éclata un peu plus tard, illustra ces pratiques, pas nouvelles certes, mais auxquelles le gouvernement ne mit pas fin. Ce n'est pas que Mitterrand et les dirigeants socialistes se heurtèrent, malgré leur bon vouloir, au mur de l'argent, comme ils disent. Les Mitterrand, Maurois, Mérigovoy, Delors, Fabius étaient des hommes conscients de leur tâche à accomplir au service de la bourgeoisie, tout comme leurs comparses du Parti communiste. La plus grande fierté du parvenu Mérigovoy, qui avait comme chef de cabinet un affairiste, Alain Boublil, qui fera scandale dans les années qui suivront, était, comme il s'en vantait, d'avoir pu donner un nouvel envol à la bourse grâce à l'argent facile, que ce gouvernement de gauche déversait sans compter dans la poche des bourgeois, encourageant la spéculation à tout va et en le faisant payer cher à toute la population. C'est ce que Moreau appelle élégamment aujourd'hui avoir eu le courage de mettre les mains dans le cambouis. La nationalisation des grands groupes industriels rendit un autre service à la bourgeoisie. Elle transféra à l'État la charge sociale, économique et financière de la restructuration de ces géants de l'industrie et à peine le contrôle public de ces groupes fut-il mis en place que les travailleurs purent en sentir les conséquences dans leur chair. Le ministre de l'économie, Jacques Delors, disait vouloir, je cite, « donner aux entreprises publiques les moyens d'être compétitives et puissantes sur le marché mondial, qui est leur marché naturel face à leurs concurrents internationaux. Cela se traduira par un cahier des charges au service d'objectifs dictés par le marché. » Au nom de la modernisation du recentrage de la production et surtout de la nécessité d'être plus compétitif sur le marché mondial, des milliers de licenciements, des fermetures d'usines furent immédiatement annoncées. Les deux géants de l'industrie, Saint-Gobain et Pechiney, allaient connaître une véritable saignée. Pendant des mois, des années, les militants des syndicats, du Parti communiste et du Parti socialiste avaient affirmé que les nationalisations permettraient de garantir les emplois et même de développer les entreprises. Dans les faits, des milliers de travailleurs furent licenciés pendant que les fermetures d'usines transformaient en désert industriel des régions entières. Et c'était le gouvernement Mauroy, avec ses ministres communistes, qui se chargeait de ce que lui-même appela le sale boulot, qui sera un élément de poids dans l'explosion du chômage, on allait connaître, et dans la démoralisation profonde de toute une partie de la classe ouvrière et de ses militants. C'est donc bien à tous les niveaux que ces nationalisations allaient être une très bonne affaire pour la bourgeoisie. Les investissements nécessaires furent payés par les augmentations des taxes et des impôts, y compris la TVA, essentiellement payée par la population laborieuse. Et une fois ces entreprises remises sur pied comme source de profit garantie, elles seront à nouveau offertes quasi gratuitement à cette même bourgeoisie à qui le gouvernement Mauroy les avait achetées au prix fort. Effectivement, dès 1986, la droite ouvrira le temps des privatisations cadeaux. Mais c'est la gauche, après son retour au gouvernement de 1997 à 2002, qui allait privatiser à tout va, non seulement ce qui avait été nationalisé en 1981, mais une bonne partie de ce qu'avait nationalisé De Gaulle en 1945 et 1946. C'est là-dessus, nous allons faire une petite.